Que vous soyez un habitué ou une personne en recherche, un chrétien d'une autre église, un croyant d'une autre religion, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, soient avec chacune et chacun d'entre vous de la part de Dieu le Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, dans sa fidélité et dans son amour. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français. « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux ». Et avec cette prière d'un chrétien du IIIe siècle, nous nous unissons dans la louange à Dieu. Que toutes ensemble, les admirables créatures de Dieu ne se taisent ni le soir ni le matin. Que ne se taisent pas non plus les étoiles, les hautes montagnes, les abîmes des mers et les sources des fleuves pour dire notre joie et notre reconnaissance à Dieu, notre Créateur. Nous te chantons, toi notre Dieu, notre Père et le Père de Jésus-Christ. Que puissance, louange, honneur et gloire soient à notre Dieu, la source unique des biens qui sont au-dessus de tous les biens. Et je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 91 dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 4.
Thank you.
pouvez prendre place pour entendre ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon les Écritures. Toi, écoute le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta réflexion personnelle. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, nous dit Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et je vous propose de nous tourner vers Dieu pour lui demander son aide en suivant du cœur cette prière de Jonas. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. J'étais dans l'abîme, les courants d'eau m'avaient englouti et je disais, « Je suis chassé loin de ton regard, mais non, je verrai encore ta présence. » Les eaux m'ont recouvert jusque m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma gorge. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel mon Dieu. Ma prière est parvenue jusqu'à toi. Me détachant enfin des idoles qui me fermaient à ta tendresse, je t'offrirai des gestes vrais de reconnaissance, avec des cris d'action de grâce. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et chacun d'entre nous. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. pouvez prendre place. Et puis j'accueille avec grande joie Louise, qui a demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin. Donc, grand bienvenue à vous. C'est un honneur, une joie. Docteur, devrais-je dire. Et puis, bienvenue à son mari, qui est lui engagé dans une paroisse catholique. Bienvenue à sa famille, qui est encore un peu sur le chemin, parce que ce n'est pas évident, peut-être, de venir avec le marathon qui nous met des bâtons dans les roues. Alors, c'est un geste fort qui vient marquer un cheminement qui a duré, je dirais, depuis votre enfance. Vous avez toujours senti, m'avez-vous dit, vraiment la présence de Dieu autour de vous. Vous avez approfondi, je veux dire, ce cheminement avec votre père qui est protestant, avec votre mère catholique, avec votre conjoint, avec d'autres personnes qui ont jalonné votre itinéraire. Et cette petite flamme qui était en vous s'est aussi développée avec votre étude scientifique, avec votre démarche de médecin aussi, très humaine, très personnelle. Et donc, c'est vrai que du coup, vous avez cette ouverture à cette incroyable source de vie qu'est Dieu, qu'est l'amour de Dieu. Alors, vous avez cherché, vous avez creusé finalement ce Dieu à travers le groupe d'initiation à la théologie que nous animons avec James. Et puis, vous voilà donc demandant le baptême ce matin. Alors, pour nous, c'est un grand honneur, une grande joie. Et finalement, c'est un geste tout simple à ce Dieu qui vous dit: tu es ma fille bien-aimée. Eh bien, vous lui dites aujourd'hui, officiellement, comme vous l'avez dit déjà dans votre cœur, finalement, tu es mon Dieu et tu es mon Père qui est dans les cieux. Alors, tout ce chemin parcouru jusqu'à maintenant nous porte à la reconnaissance, à la louange, mais ce chemin est encore ouvert, bien sûr, et jour après jour, dans le chemin de la vie, eh bien, vous découvrirez encore énormément de merveilles venant de ce Dieu qui nous anime. Alors, je vous propose donc de vous approcher pour recevoir le baptême. Louise, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême vous appellera à demeurer jour après jour en communion avec Dieu, avec ce Dieu qui vous accompagne, avec ce Dieu de Jésus-Christ en qui vous est offerte la joie d'une vie créatrice et puis d'un cheminement personnel, grâce à la présence du Saint-Esprit. Dieu vous conduira dans votre chemin, vous accompagnera et vous comblera donc de ses bénédictions. Alors vous avez préparé quelques mots pour nous dire votre cheminement. Alors c'est bien sûr, tous les chemins sont personnels, mais en même temps, ça peut nous donner aussi des pistes pour avancer nous-mêmes d'un pas de plus dans notre route. Merci beaucoup.
C'est après un long cheminement que je peux aujourd'hui me présenter devant vous dans votre église. Cheminement riche de rencontres, d'amour de ma famille et de mon fiancé, et d'apprentissage lors du culte et des séances d'initiation à la théologie. Aujourd'hui, c'est en toute liberté que je demande le baptême, comme signe de la grâce de Dieu. Cette grâce que j'ai toujours sentie au fond de mon être, sans pour autant la définir très clairement. Je ressens la présence de Dieu dans la chaleur qui brûle nos veines, dans cet élan vital qui nous pousse à nous dépasser pour les autres, mais aussi dans la douleur, la perte d'un être cher, les obstacles de la vie. Aujourd'hui est le départ d'une vie nouvelle, vécue sous le signe de l'amour de Dieu et de mon prochain, et je ferai de mon mieux pour répandre cet amour autour de moi, pour vivre ma foi dans les petits gestes du quotidien, pour vivre une vie plus fraternelle et solidaire de tous les hommes, tous enfants de Dieu. Je suis fière de déclarer aujourd'hui que je crois en Dieu, le Père fondateur de ce monde en mouvement, créateur de joie et de bonheur. Il donne à notre vie un sens positif et fertile. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, le messager de Dieu, transmettant sa parole et son amour à ses frères, les hommes. J'emprunte à Martin Luther King ces mots écrits en 1964 et qui résonnent aujourd'hui toujours aussi fort. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen.
Merci beaucoup, Louise. Et je vous propose de vous unir donc à cette confession de foi en chantant le répond qui est marqué dans le livret. Mon Rédempteur est vivant. Dans ma vie de chaque jour, je partagerai ta gloire. Merci beaucoup. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Alors Louise, vous avez donc reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, et vous avez confirmé ce baptême, signe de l'amour de Dieu, et bien par votre déclaration de foi, votre confession de foi, et puis par vos actes de tous les jours. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne universelle, l'Église chrétienne qui dépasse largement les frontières de nos paroisses, de nos institutions, qui rassemble la large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Alors que le Saint-Esprit affermisse jour après jour votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour, dans la joie comme dans les difficultés. Nous prions Dieu. Ô notre Père, nous te remercions pour Louise que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie, mais plus grande encore, nous le savons, est la joie dans le ciel pour ce geste de foi, de confiance en toi, notre Dieu, et de communion avec tous les hommes et les femmes qui te cherchent, t'espèrent, te prient et te reçoivent dans leur être. Accompagne jour après jour, épanouis encore, enrichis encore jour après jour la foi de Louise, sa réflexion, fais-la produire des merveilles parmi les siens, dans son travail, dans son environnement. Fais que son témoignage dans le monde et parmi nous à l'oratoire porte du fruit aussi en nous-mêmes qui avons eu la chance d'être là ce matin. Que cela nous aide à nous approcher, nous aussi plus de toi, à être plus confiant dans ta parole, à être plus confiant dans l'avenir, plus aimant pour ce monde que tu aimes et pour ceux que tu nous confies. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci. Dans les premiers siècles du christianisme, la semaine qui suit le dimanche de Pâques était tout entier comme un grand dimanche finalement. Et le dimanche qui suit Pâques s'appelait le deuxième dimanche de Pâques, ou alors il a aussi un autre nom, le dimanche de Quasimodo. Alors ce nom vient du passage de la première lettre de Pierre, Quasimodo geniti, comme des enfants nouveau-nés. Alors c'est ce texte que je vous propose de suivre, même s'il n'est plus depuis déjà quelques centaines d'années dans le missel, c'est-à-dire les listes de lecture proposées aux églises qui veulent bien suivre les listes. Première lettre de Pierre à la fin du chapitre 1 au verset 22 et puis jusqu'au chapitre 2, le verset 6. Ayant purifié votre être en écoutant la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été engendrés à nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est cette parole qui vous a été annoncée dans l'Évangile. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, toute dissimulation, envie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est ce que vous ferez. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu et précieuse. Et vous-même, comme des pierres vivantes, soyez édifiés en maison spirituelle, pour un saint sacerdoce, faisant des offrandes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est marqué dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui a foi en elle ne sera pas confus. » Et puisque Pierre nous propose d'être comme des enfants nouveau-nés, je vous propose d'entendre le psaume 8, où le psalmiste nous dit que dans le nourrisson, il y a là une force incroyable contre toute la négativité du monde. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu fondes là une force en face de ton ennemi, pour imposer silence à tout ce qui est vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu établis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt son chemin dans les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors pour laisser le temps à ces écritures anciennes de résonner en nous avant de chercher ce qu'on va y trouver pour nous faire avancer, je vous propose de chanter ensemble le psaume 118 dans le psautier français. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, les strophes 1, 2 et 6.
Thank you.
Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et toi qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Et là où je suis enfermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne et toi que j'aime. Et qu'en aimant, j'apprenne à aimer mon prochain. Augmente en moi ces dons jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Que reste-t-il de Pâques une semaine après Pâques ? Nous avons été invités à ressusciter, ou plutôt, comme le dit ici Pierre, à être engendrés à nouveau, à naître, à une vie nouvelle de foi, d'espérance et d'amour. Bon, ça c'est fait, check. 8 jours après, le dimanche de Quasimodo nous invite donc logiquement à nous considérer comme des enfants nouveau-nés, des enfants de 8 jours, un nourrisson, allaité par Dieu et par sa parole. Et cette image porte déjà l'évangile. Un bébé n'a rien à craindre, finalement, d'une tendre maman comme Dieu sait l'être, bien sûr. Et ça devrait être pour nous aussi naturel de désirer boire sa parole par la prière, par la réflexion, aussi naturel que pour n'importe quel petit animal de chercher le sein de sa mère. Contrairement à ce que pensent certains athées, l'humanité n'a pas inventé Dieu pour se rassurer, pas plus que le bébé se serait fait un film en imaginant qu'il existe quelque part, un être immense et tout doux qui lui donnera son corps à manger pour le nourrir, le protéger, l'aimer et le réconforter. Non, la personne humaine cherche Dieu tout simplement comme le bébé cherche sa mère. Mais ce dimanche de Quasimodo nous fait penser d'abord peut-être à nous dans notre culture au roman de Victor Hugo, Le Bossu de Notre-Dame. Il y a effectivement un lien explicite entre ce texte de la Bible et ce personnage de Quasimodo que nous connaissons peut-être plus à travers Walt Disney qu'à travers le roman de Victor Hugo, mais quand même, Victor Hugo nous dit que si Quasimodo s'appelle Quasimodo, c'est qu'il a été trouvé finalement bébé sur les marches de Notre-Dame le dimanche de Quasimodo. Mais pour ceux qui seraient moins familiers que Victor Hugo avec les Écritures, Il explique que ce nom est donné à ce bébé handicapé, finalement, pour caractériser à quel point la pauvre petite créature était incomplète, à peine ébauchée. En effet, Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n'était guère qu'un à peu près, nous dit Victor Hugo. Alors c'est peut-être une bonne transcription de ce que l'apôtre Pierre nous dit de nous-mêmes dans cette lettre. En quelque sorte, nous sommes Quasimodo, même si dans la lettre de Pierre, il y a quand même plus d'espoir, plus de douceur, plus d'encouragement pour notre Quasimodo, le Quasimodo que nous sommes, que dans la tragédie de Victor Hugo. Mais finalement, la situation de base est la même, nous dit l'apôtre Pierre, puisqu'il présente notre évolution comme un miracle aussi improbable que serait de voir Quasimodo, le Quasimodo de Notre-Dame, eh bien, se redresser et devenir un prince charmant. La seule possibilité d'être un être humain, finalement, c'est déjà un miracle incroyable, nous dit cette lettre, nous dit la Bible, et c'est vrai, je pense. C'est déjà un mélange contre nature, comme le serait une pierre vivante, nous dit Pierre. Ce qui est une qualité quand même assez improbable pour un caillou, en fait, d'être vivant. Il n'y a rien de plus éloigné de la vie qu'un caillou. Alors Pierre nous dit que nous sommes ce miracle. Vous êtes comme des pierres vivantes, à la fois tissées de matière brute et de vie divine. Et cela nous dit finalement en une image, en un raccourci incroyable, ce qu'est notre résurrection. Vous êtes une pierre, mais vous avez reçu la vie, finalement. Vous avez reçu une vie, vous êtes une pierre vivante comme Christ est une pierre vivante, nous dit Pierre. C'est l'évangile de Pâques, en fait. Et aujourd'hui, nous dit Pierre, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire grandir cette vie qui est en vous, qui vous habite déjà, et ne plus être seulement un à peu près, ne plus être même une pauvre petite créature incomplète, à peine ébauchée, comme le dit Victor Hugo. Contrairement à l'Évangile, le roman de Victor Hugo semble plus pessimiste sur la nature de l'humain, parce que chacun des personnages de ce roman est handicapé à sa façon, et finalement va le rester malgré des efforts désespérés, tragiques, tout au long du roman. Tous se battent pour essayer de cheminer, mais l'ensemble de l'histoire du roman est comme marqué par une fatalité. C'est d'ailleurs ce que Victor Hugo annonce dans sa préface de son livre, dans une préface qu'il appelle Ananke, Ananke, la fatalité, un destin implacable. Il dit qu'il a relevé ce mot gravé sur la pierre dans un recoin sombre et improbable de Notre-Dame. Mais peut-être, en fait, a-t-il lu ce nom, Ananke, la fatalité, dans l'histoire même multicentenaire de cette cathédrale. En tout cas, nous dit-il, c'est sur ce mot qu'on a fait ce livre, ce roman de Notre-Dame, Ananke, la fatalité, le destin implacable. Alors la semaine de Pâques, elle nous encourage à voir l'histoire autrement finalement qu'une fatalité, à voir notre histoire et l'histoire du monde autrement, à nous reconnaître comme vivants et pas simplement comme une pierre morte, vivant sans que notre être tout entier soit promis à la mort comme l'herbe des champs. Au contraire, nous avons un avenir de construction devant nous, un avenir de croissance possible, Quasimodo, nati infantes, comme des enfants nouveau-nés, grâce au lait pur de la parole de Dieu. Et dans un sens, c'est vrai, nous sommes de la même espèce qu'une herbe, qu'un caillou, qu'un simple caillou ou qu'une fleur des champs. Mais une herbe, une fleur, un caillou habité par le souffle de Dieu, nous dit Pierre en citant le prophète. Et cela sonne la fin de la fatalité. Nous sommes une pierre vivante appelée à un projet de construction auquel nous pouvons participer, construction en nous-mêmes et construction dans le monde, d'un monde sans cesse changeant, sans cesse en évolution. Et cette qualité, finalement, d'être vivant est célébrée à Pâques, mais elle n'est qu'en nous que naissante, finalement, cette capacité. Elle a besoin de lait et de tendresse pour se développer, se mettre en place. Alors le témoignage de Victor Hugo est plus sombre. Chacun de ces personnages est doué de quelques excellentes facultés humaines, mais reste handicapé des autres facultés. Cela, ce n'est pas complètement faux dans notre existence. Nous vivons aussi tous un petit peu cette situation d'être un humain à peine ébauché, de nous sentir n'être qu'un à peu près humain, finalement. Et c'est vrai, en fait. Mais Pierre nous dit que, si c'est vrai, notre réalité est moins tragique que dans le roman de Victor Hugo. Car en fait, nous sommes tous plus ou moins chacun des personnages du roman de Victor Hugo, et donc nous sommes bien moins handicapés que chacun d'entre eux. Nous sommes ce Quasimodo qui est si seul dans ses tours de Notre-Dame, qui se sent en marge de la fête, ayant un besoin vital d'aimer et d'être aimé. Il incarne l'âme, la gentillesse, et nous en avons. Nous sommes l'archidiacre Frollo qui incarne l'intelligence et la culture. Nous sommes l'insouciant Phoebus qui incarne la beauté de l'instant. Et tout ce petit monde et quelques autres tournent autour d'Esmeralda, la belle danseuse gitane avec qui chacun aimerait s'unir, bien entendu. Mais le roman de Victor Hugo est sombre car aucun des personnages n'y arrive. Seule une personne qui réunirait la qualité de tous les personnages serait digne d'elle. Alors chacun essaye de s'y exercer, cherchant la complétude. Quasimodo essaye d'être moins naïf dans sa gentillesse, il essaye d'être moins esclave de sa soif d'être aimé. Frollo n'est pas tout à fait le monstre froid agissant par seul devoir, par seul intérêt. Il va se surprendre à aimer son petit frère. Mais Quasimodo, comme Frollo, reste incomplet, handicapé de chacun d'une dimension essentielle. La lettre de Pierre est beaucoup moins tragique que ça. Nous sommes, oui, un être complet à notre façon, et en fait nous l'ignorons dans un certain sens. Nous le sommes parfois comme un enfant nouveau-né. Donc nous ne sommes pas aussi handicapés que nous le pensons. Notre défi est simplement de nourrir finalement une croissance, une réconciliation ensuite de toutes les excellentes facultés de notre être, de nos facultés humaines. Nous n'avons pas à les inventer comme essayent de le faire les personnages de ce roman tragique de Victor Hugo. Alors il faut les nourrir, les développer, et puis ensuite il faut assembler ces excellentes pierres vivantes que sont nos différentes facettes finalement, les assembler en une demeure harmonieuse. Pierre parle d'une maison spirituelle, d'une maison toute tissée de paroles. Cette maison spirituelle parle à la fois de l'humanité qui est appelée à se réconcilier à travers ses différents personnages, ce qui est possible, ce qui n'est possible que par un miracle de création divine, par sa parole. Voilà. Mais cette maison toute tissée de paroles et emplie de l'esprit, c'est aussi, et concomitamment finalement, la personne humaine individuelle, réconciliant, fusionnant, combinant les différentes capacités, qualités humaines dont la dissociation est dénoncée, dont les manques sont dénoncés, dont l'oubli est dénoncé par la tragédie de Victor Hugo. Alors qui réconciliera en nous le savant, le gentil, l'athlète, le fidèle, le joyeux et le beau que nous sommes? Et pour que l'ensemble puisse s'unir ainsi à la vie elle-même, comme ces personnages rêvent de s'unir à Esmeralda, eh bien nous ne le savons que trop, c'est presque impossible à la personne humaine. C'est ce que dit finalement Victor Hugo. C'est déjà surhumain de se changer soi-même un tant soit peu. C'est aussi impossible que pour Quasimodo de ne plus être le bossu de Notre-Dame ou pour l'archidiacre de devenir le prince charmant qu'il rêve d'être. C'est pourquoi le sujet de cette tragédie de Victor Hugo est l'ananké, la fatalité. Au mieux, on peut se hausser en marchant sur la pointe des pieds ou sauter en l'air un instant si l'on est un bon danseur, mais il n'est pas certain que cette impasse soit la conclusion du roman de Victor Hugo. Peut-être est-ce seulement une pédagogie pour nous inviter à chercher une solution au-delà finalement de nos seules petites forces. En tout cas, ce n'est certainement pas la conclusion de l'Évangile. L'évangile que nous donne ici l'apôtre Pierre avec ses images de l'enfant nouveau-né et des pierres vivantes appelées à construire un édifice spirituel. La parole du Seigneur change tout. Alors la parole, c'est une expression qui est peut-être trompeuse. On peut penser la parole, la Bible, Eh bien non. La parole, on peut penser une parole qui nous serait donnée de Dieu, comme à Jeanne d'Arc, boute les Anglois hors de France. Rarement. La parole, dans la Bible, c'est une expression qui évoque une action créatrice de Dieu qui nous est comme proposée dans un dialogue, finalement. Dans un dialogue avec cette proposition divine, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors l'image de Pierre pour parler de l'effet de la parole pour nous est assez crue, charnelle, concrète. Cette parole divine, il la compare d'abord au sperme de Dieu le Père qui permet la conception en nous de ce qui est véritablement humain. Et puis ensuite, il fait de cette parole éternelle le lait de Dieu notre Mère qui nous donne à recevoir son sein. De sorte que le quasimodo que nous sommes n'est pas réduit à ces pauvres figures de la tragédie de Victor Hugo. Mais nous sommes un enfant nouveau-né à Pâques, finalement, qui va grandir et qui est bien digne d'être le prince charmant qui peut séduire, qui peut s'unir à Esmeralda. L'Évangile nous dit bien que nous sommes la fiancée que le Christ veut épouser. Mais le miracle qu'évoque Pâques ne se réalise pas en une seconde, nous dit Pierre. Alors que reste-t-il après Pâques ? Il devrait nous rester cette dynamique de croissance et cet appétit pour la parole, pour le geste de plus qui vient de Dieu et qui va nourrir notre croissance. Et puis cet appétit gourmand, donc amoureux, pour le lait de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que la nature humaine et l'humanité que l'Évangile a à voir moins tragiquement, moins soumis finalement à l'ananké par la foi. Il y a aussi l'histoire de l'humanité. Pierre commence par évoquer l'herbe des champs, belle mais désespérément éphémère, produite à la ruine. Et puis il parle de ce don de Dieu qu'il apporte à une toute autre dimension. Les apôtres était à une époque certainement inconfortable à ce moment où Pierre écrit sa lettre. Une époque enthousiasmante, mais anxiogène. En Christ, il y a un changement inouï dans la façon de voir, de concevoir l'humain, de concevoir l'humanité, de concevoir la relation à Dieu. La loi avait été donnée à Moïse, gravée dans des tables de pierre, bien tangibles, par le doigt même de Dieu. C'est devant ces tables que David danse, et ce sont elles qui seront déposées dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, ces tables mêmes que Moïse avait recueillies, avec lesquelles ils avaient voyagé à grand-peine, parce que c'est lourd la pierre, même deux simples petites tables de pierre. Si toute la Torah avait été écrite sur des tables de pierre, c'est peut-être 200 camions remorques qu'il aurait fallu pour accompagner les Hébreux. Mais en Christ, cette loi divine s'accomplit dans une autre forme, non plus sur des tables de pierre, mais s'inscrivant de façon dynamique au cœur même de chaque personne, inscrivant la parole vivante, nous dit Pierre. Alors c'est un changement terrible. Dans une vision que racontent les Actes des Apôtres, Pierre avait eu la révélation de cette libération de la loi écrite sur des tables de pierre. C'est la fin de l'absolu pour Pierre, la fin des interdits alimentaires, des aliments purs et impurs, des recettes interdites comme la blanquette de veau, pourtant si délicieuse, c'est invraisemblable. Eh bien, la voix divine ouvre tout cela. Une voix se fit entendre à Pierre, venant des cieux, et elle se répète encore pour qu'il entende bien ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Et puis le récit de Pentecôte où Pierre était aussi un des acteurs principaux, le rappel aussi, le don de l'Esprit n'est plus une flamme donnée à un seul Moïse ou donnée à une flamme unique donnée aux apôtres. Non, les flammes sont données individuellement en chacun, à tous ceux qui étaient présents là, hommes comme femmes, pas sous forme d'une loi unique pour tous, mais comme une capacité donnée à chacun, donnée à l'intérieur de chacun. Et donc tout devient, comme dans cette voix venue du ciel pour Pierre, une affaire d'écoute personnelle. Une écoute singulière de ce que dit Dieu à chacun. Ça, c'est pur pour toi, et ça, aujourd'hui, ça, ce n'est pas pur pour toi aujourd'hui. Alors c'est magnifique, mais c'est vertigineux, bien sûr. La loi n'est plus inscrite sur une table de pierre, mais chacun devient une pierre est une pierre vivante, mobile, souple, évolutive. Alors comment construire un peuple, comment construire une communauté vivable s'il n'y a plus une unique écriture objective pour bien unir tout le monde? Est-ce que nous n'aurons pas du sable qui coule entre les mains plutôt qu'avoir un temple en pierre massive au sommet d'une montagne? Eh bien non. Certes, il y aura une infinité de pierres et de pierres vivantes par-dessus le marché, donc mobiles, libres, indépendantes, chacune investie de son propre sacerdoce, c'est-à-dire sa propre capacité d'entrer en relation avec Dieu, nous dit Pierre, sa propre interprétation de ce qui est juste et bon. Mais il y a un seul Dieu et il a placé en Christ une pierre angulaire, et donc ce qui rassemble la communauté, nous dit Pierre, c'est le lien individuel de chacun à lui, à cette pierre vivante qu'est Christ, par la foi, par la confiance en lui, et puis par notre sincérité qui tend ce regard, finalement, avec un unique Christ. Alors Victor Hugo exprime lui-même aussi ce vertige face à un changement d'époque. L'action du roman se passe en 1482, juste au moment où l'invention de l'imprimerie commence à changer le monde, en fait. Les livres commencent à se répandre partout. Et l'archidiacre Frollo fait ce constat tragique dans une phrase qui est bien connue. « Ceci tuera cela. Le livre imprimé va tuer le livre de pierre qu'est la cathédrale. Le livre imprimé tuera l'Église, si massive, si centralisée, car c'est la fin du dogme. Chacun aura la connaissance, la faculté de juger, d'interpréter à sa façon. Alors oui, il y a un vertige. Est-ce que tout fiche le camp ? À chaque changement d'époque, il y a ce mal-être, ce sentiment de tragique, ce sentiment de perte, de chute. Socrate raconte la crainte du pharaon 1000 ans avant lui, quand pour la première fois on a commencé à inventer l'écriture. Mais cela va tuer la mémoire de l'homme, il n'aura plus à se souvenir, il suffira de lire. Mais ça ne va pas tuer en fait la mémoire de l'homme. L'homme aura à se souvenir qu'il a des livres et ce sera bien plus puissant, en fait, nous dit Socrate. Autre changement, quand le papyrus a été inventé, eh bien c'est la fin de la gravure sur pierre, obligeant chacun à aller au centre et aller lire ce qui est marqué sur l'obélisque place de la Concorde pour recevoir la connaissance. Alors oui, ce qui fait trembler le pharaon, ce qui change tout, le livre se copie, se déplace avec nous, on peut l'envoyer à un ami, on peut le changer, on peut en écrire de nouveau, facilement, chez soi. Avec Jésus, nouvelle révolution angoissante, nouvel changement d'époque, une nouvelle conception de la vérité et de l'unité. Ce n'est même plus seulement les livres qui peuvent se répandre partout et voyager, c'est la fin même de la révélation centralisée. On ne copie pas simplement la Bible, mais chacune et chacun est fait interprète de la Bible. Et même, nous dit Pierre ici, en disant qu'on est un sacerdoce, qu'on est prophète ou prophétesse par l'Esprit, chacun est le lieu même de la résurrection, de la révélation. Chacun est un petit Moïse, recevant une écriture nouvelle. Et ensuite, l'imprimerie développe encore cette révolution. L'archidiacre a tort. Le livre n'a pas tué les cathédrales, il s'est ajouté aux cathédrales. Le livre n'a pas tué l'Église, il la transforme, il la libère, il la rend proche de chacun. Alors évidemment, les archidiacres tremblent devant le livre imprimé, nous dit Victor Hugo, comme des soldats en haut des remparts voient s'approcher l'armée ennemie, équipée de lourds canons ou de béliers, en se disant « mais la muraille ne tiendra pas ». Alors est-ce que c'est la fin de l'Église sans le support du dogme, de la pensée unique? Ben non, c'est la fin d'une certaine conception de l'Église, une fin d'une certaine conception de la vérité, une certaine conception de l'unité même, une certaine conception de l'Église, mais c'est pour son bien et pour le bien de tous. De même que la photo n'a pas tué la peinture, par exemple, il l'a simplement libérée de devoir imiter le réel. Et la peinture cohabite avec la photo. La révolution numérique mondiale que nous vivons est elle aussi inconfortable. Mais encore une fois, ceci ne tuera pas cela. Le numérique ne tue pas le livre, bien au contraire. Mais encore une fois, il nous faut seulement apprendre cette révolution numérique et cette révolution de la mondialisation. L'apprendre comme un enfant nouveau-né et vivre cette nouvelle transformation. Encore une fois, il y a de merveilleux côtés, il y a de profondes affinités dans cette nouvelle libération, même qu'il y ait une libération du numérique et de la mondialisation qui est en profonde affinité, je pense, avec cette libération spirituelle apportée par le Christ. Mais il nous faut simplement inventer une éthique de ces nouvelles possibilités et puis soigner ces travers pour être plus que jamais des pierres vivantes. C'est ça, finalement, la solution que nous propose Pierre dans son monde en mutation et dans notre monde en mutation. Être des pierres vivantes qui s'assemblent en une maison spirituelle toute tissée de paroles de Dieu évidemment, mais aussi de paroles entre frères. Et être pierre vivante, eh bien ça s'apprend, ça se choisit, ça se nourrit. Amen. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil Louanges et prières le cantique 213, Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, pour ta grâce ineffable. Les trois strophes de ce cantique 213. pouvez prendre place. J'espère que vous avez apprécié ce cantique sur un air de valse pour danser avec Esmeralda ou Jésus-Christ, selon votre choix au milieu donc, du temple. Alors, moins amusant, il y a deux obsèques cette semaine. D'abord, George Ivascu, donc un homme roumain que nous connaissions bien, qui était ici, donc est décédé d'un cancer. Un court service d'obsèques aura lieu mardi à 14h45 par un pope orthodoxe à l'hôpital Cochin. Et puis, il y a Madame Colette Levasseur, qui avait 95 ou 96 ans, avec un service d'obsèques ici même à 14h30. Alors après ce culte, il y a un repas paroissial en face, à midi, donc vers midi, à Salmono. C'est au deuxième étage du 4 rue de l'Oratoire. Même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir et puis nous partagerons ensemble c'est le délicieux repas préparé par une équipe qui travaille depuis vendredi soir. Lundi, il y a le grec biblique pour les progressants. Et puis, à 20h, il y a l'approfondissement théologique avec une séance donc sur le pardon. James et moi-même, à 20h, donc, au deuxième étage du 4 rue de l'Oratoire, lundi. Mardi, il y a le groupe biblique pour les débutants. Et puis, il y a l'initiation à la théologie, donc un cycle de 6 rencontres qui se poursuit et qui est donc à 20h aussi en face. Mercredi, il y a le grec biblique pour ceux qui sont déjà bien avancés. Jeudi, il y a la répétition du chœur. Vendredi, il y a ici un récital d'orgue, donc les heures musicales, à midi et demi, de midi et demi à 1h30, par Aurélien Péter, avec des œuvres de Marchand, de Bach, de Brahms et de Langlais. En entrée libre, bien sûr. Samedi à midi et demi, il y a le repas des lycéens, un banquet des lycéens, comme nous en organisons régulièrement. Donc ils sont bienvenus, les anciens catéchumènes de l'oratoire, leurs amis ou d'autres lycéens peuvent venir. C'est bien s'ils s'inscrivent pour qu'on sache combien prévoir de nourriture. Donc c'est à partir de midi et demi, en face, aux 4 rues de l'oratoire. Et puis donc il y a le culte ici même à 10h30 et puis l'éducation biblique avec toutes les tranches d'âge demain, donc dimanche prochain, toute la journée. Maintenant c'est le moment de l'offrande et donc nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est un moyen d'offrir sa louange à Dieu et puis de permettre à l'Église de nous aider à avoir un témoignage dans le monde et à accompagner les familles sans condition de ressources. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour chaque personne qui a été pour nous une source de vie, une bénédiction. Aide-nous à recueillir avec affection et avec respect chacune de ces bénédictions. Purifie notre souvenir, purifie notre amour. Ouvre nos yeux sur tout cet amour que nous recevons et qui nous fait vivre, qui nous fait grandir. En particulier cet amour premier que tu as pour nous, amour qui donne vie à notre amour. Oui, toi, Éternel, tu restes. Tu restes et tu resteras toujours fidèlement la source ultime du bien. C'est pourquoi nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, ce qui nous peine, avec nos espoirs et nos projets. Nous ne savons pas ce que tu peux faire, toi, la source toujours nouvelle de vie, mais nous te faisons confiance. Et donc nous pensons à notre tour devant toi, grâce à toi, à ceux que nous avons à cœur de voir être aidés, encouragés, soutenus. Oui, il y a tant et tant à faire qu'il faut que tu nous éclaires, ô Dieu. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service et dans la communion avec tous les chrétiens de toutes les églises et de toutes les générations, nous nous ouvrons à toi par cette prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu, qui nous est donnée en particulier. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, béni sois-tu, ô Dieu, source de vie, de croissance, de mouvement et d'être.